Sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 5 concernant la série « Les esprits mauvais existent ». En effet, le mal existe. Le sujet de cette série de CD, j'aurais dû le dire tout au début, présente un intérêt irrésistible à tous les esprits chercheurs. Philosophes et savants, théologiens et publicistes nous ont donné sur les sujets exposés dans cette série des traités les plus sages, mais d'autres parfois un peu absurdes. L'erreur trop commune de n'avoir confiance que en la connaissance humaine, que à la tradition et à l'espérance, a plus ou moins entravé la majorité des efforts à faire pour obtenir la vérité sur ces sujets-là. Sur ceci aussi bien que sur tout autre sujet de foi et de pratique, eh bien la seule source et règle de connaissance exacte, la véritable science digne de foi, elle se trouve dans les saintes écritures, lesquelles, nous sommes heureux de le reconnaître, exposent leur vue sur ces sujets en accord étroit avec la saine, une saine raison et l'expérience humaine. En conséquence, les théories et philosophies humaines sur la vie, la mort et l'au-delà comme fondement de l'édification de la foi, basent leur pensée sur le rocher inexpugnable des saintes écritures et présentent donc la pensée divine sur les sujets qui sont présentés ici. Cela explique les nombreuses et fréquentes références aux saintes écritures que l'on trouve au cours de ces études. Satan, qui est l'adversaire de Dieu et de l'homme, toujours en alerte pour capturer les imprudents, cherche à emprisonner dans la servitude de l'erreur ceux dont le cœur saigne parce que la cruelle faucheuse, elle a rentré dans la tombe un ou plusieurs de leurs bien-aimés, comme telle a été son habitude depuis un temps immémorial, il met maintenant en opposition l'un avec l'autre les extrêmes de l'erreur, espérant ainsi de détourner le chercheur honnête de la vérité qui se trouve entre ces extrêmes et l'amener à oublier cette vérité. D'une part, au moyen de la soi-disant orthodoxie, il soutient devant le cœur endeuillé la félicité éternelle des bons défunts et le malheur actuel aussi bien que le malheur éternel des défunts méchants dans des lieux spécifiques, tandis que d'autre part, au moyen du spiritisme, il se sert de ses subordonnés, les anges déchus, pour les faire passer comme étant les esprits de nos bien-aimés disparus et les habitants de l'atmosphère terrestre. De cette manière, il en trompe donc malheureusement beaucoup, profitant de leur candeur, jouant subtilement sur les cordes sensibles de leur cœur endolori. Grâce à ces erreurs extrêmes, l'ennemi réussit à cacher aux yeux de beaucoup la vérité, savoir que les morts dorment, reposent paisiblement après le cauchemar de labeurs harassants et de tourments au sein desquels ils ont passé depuis le berceau, on peut bien le dire, jusqu'à la tombe où ils gisent tranquillement en paix jusqu'à ce que la voix de Christ, le donateur de vie, les rappelle de la mort à la vie et à un meilleur au-delà. L'orthodoxie, aussi bien que le spiritisme, trompe leurs spectateurs et la vérité seule donne aux personnes en deuil un puissant réconfort. Aider des cœurs honnêtes à être et à rester libres à l'égard des tromperies qui prévalent sur la vie, la mort et l'au-delà, et à obtenir le repos de l'esprit et le réconfort du cœur qui découle d'une connaissance exacte de la pensée divine sur ces sujets, tel est donc l'un des objets de ces CD, de ces études, et derrière cet objet est imprégnant ainsi la matière de tout ouvrage, la pensée de défendre le caractère, le plan et l'œuvre glorieux de Dieu et le sacrifice de la rançon de Jésus-Christ et son ministère qui en résulte, par lequel il est capable de sauver entièrement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est donc certain que de tels desseins seront bien accueillis par tous les gens de bien dont nous sollicitons les prières pour que Dieu fasse prospérer l'ouvrage dans cette mission divinement approuvée. Chers amis, la Bible dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. » C'est écrit dans Éphésiens, notez bien, Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Il y a deux opinions différentes qui s'opposent à la compréhension exacte de ce qui, croyez-nous, constitue le spiritisme. Premièrement, la première est celle de la plupart des gens qui ne croient pas au spiritisme et estiment que les manifestations et preuves avancées sont des supercheries. Deuxièmement, la seconde, elle partage, ou elle est partagée plutôt, par un nombre croissant d'individus, est celle de ceux qui nient l'existence des esprits du mal ou des démons, et celle du prince des démons que les Saintes Écritures appellent le diable et Satan. Satan sait parfaitement que ceux qui nient son existence ne sont pas effrayés de sa puissance et de son influence. Ils ne sauront éviter ses ruses et artifices et ne prieront pas Dieu de les délivrer du malin. Donc ceux qui ignorent l'existence du malin n'ont pas la perspective de l'écraser sous leurs pieds, ou s'y sont-ils exposés, à devenir la proie facile de l'ennemi de leur âme. C'est par l'influence du malin lui-même que les hommes sont amenés à ignorer et à nier son existence. Ils se relâchent alors de toute vigilance, deviennent ses sujets et sont entièrement asservis par lui. Il est notoire que parmi les personnes qui font profession chrétienne, celles qui nient l'existence du malin sont celles qui prient peu ou même pas du tout et sont apparemment aussi peu soucieuses de l'existence de Dieu que de celle de Satan. Ces personnes-là, surtout celles qui ne prient pas dans l'intimité, on ne connaît pas d'exemple d'un négateur du malin qui prie dans l'intimité, ils ne se soucient aucunement de leur devoir envers Dieu et n'ont pas de religion du tout, sinon un formalisme inutile, quelle que soit leur prétention à cet égard. Comment le spiritisme peut-il donc faire du tort à ceux qui sont persuadés de la fausseté, de la tricherie, de ses prétentions et de la crédulité de ses adeptes. À cela, nous répondons, la grande majorité de ces spectateurs sont précisément ceux qui, à un moment donné, ont nié complètement et de tout cœur les manifestations spirites en les considérant comme des impostures. Les plus incrédules en matière de spiritisme sont ceux qui souvent désirent le plus vérifier la chose et lorsqu'ils sont convaincus que beaucoup de ces prétentions sont vraies, et que le nombre de ces manifestations sont surnaturelles, ils sont alors très portés à devenir de fervents adeptes du spiritisme. Si ces personnes avaient connu l'essence même du spiritisme, les méthodes et la puissance par laquelle ils opèrent, elles se seraient tenues sur les gardes de ces gens-là, et elles auraient eu une base d'appréciation qui autrement leur fait défaut. Donc, faute de connaître ce qu'est réellement le spiritisme, connaissance qui est donnée par les Saintes Écritures et confirmée par des preuves évidentes hors du domaine des Saintes Écritures, beaucoup de gens deviennent donc ainsi la proie de cette duperie. Voyez-vous, il est certain que nombre d'impostures ont été commises sous l'étiquette du spiritisme, spécialement dans les essais de matérialisation. Il est indiscutable que les spirites ont réalisé et peuvent réaliser différentes œuvres remarquables qui dépassent la puissance humaine grâce à l'intervention de certains pouvoirs ou facteurs. Nombre de ces expériences dans différents domaines ont été contrôlées par des savants totalement incrédules. Des tambourins maintenus en l'air, hors de portée de main par une force invisible, ont bel et bien résonné comme s'ils avaient été frappés. Des chaises avec des personnes qui étaient pourtant assises dessus ont été soulevés en l'air sans l'intervention d'une puissance ou d'un moyen apparent. Des médiums se sont maintenus sans aucun support en l'air, etc. Donc les expériences, des coups frappés, des tables tournantes, des autographes écrits, des inscriptions sur ardoise ont été répétées et contrôlé nombre de fois à la satisfaction de centaines d'individus intelligents dans les différentes parties du monde. Le spiritisme compte parmi ses adhérents des juges, des avocats, des hommes d'affaires et nombre de femmes très intelligentes. Curieusement, on ne voit pas des ouvriers d'usine, ni ceux qui travaillent à la route. Toutes ces personnes qui se croient super intelligentes ont vérifié les assertions du spiritisme et avouent leur foi absolue dans ce domaine-là. Il est déraisonnable, pour ne pas dire plus, de se moquer de telles personnes en les traitant d'imbéciles si elles sont simplement trompées par des prestigitations et des escamotages, ou en les traitant de coquins, si elles se prêtent, le sachant et le voulant, à l'emploi des procédés de charlatans. Au début, un pasteur, qui se montra pourtant très sceptique quant aux diverses prétentions du spiritisme, mais tout de même, étant un chrétien en qui il avait une entière confiance, cela l'a convaincu du contraire. Et voyez-vous, ce chrétien, ne croyant pas au spiritisme, se trouva un soir en compagnie de spirites. Notez que on a le libre choix, il a bien voulu, et on proposa d'organiser une séance. L'assistance y consentit et notre ami y resta uniquement par curiosité. Entre guillemets, je vous dirais personnellement, et ça n'engage que moi, abstenez-vous de toutes ces curiosités malsaines. Alors, les personnes se sont donc assises autour d'une table, avec leurs mains placées comme il est d'usage. L'une des personnes présentes agissant comme médium, elle demanda: Y a-t-il des esprits présents? La réponse indiquée par des coups frappés sur la table, un coup pour la lettre A, deux coups pour la lettre B, trois coups pour la lettre C, etc., annonça que des esprits étaient présents, mais qu'ils ne feraient pas de communication ce soir-là. Le médium demanda: Mais alors, pourquoi? La réponse fut: parce que de nouveaux médiums ont été désignés sur toute l'étendue des États-Unis, et l'assistance fut donc déçue et demanda à titre de preuve, par l'intermédiaire du médium, la communication du nom d'une ou d'un personnage important qui allait mourir cette même nuit. Et cette requête fut absolument accordée, et le nom d'un très haut dignitaire russe fut indiqué. Ceci se passait avant la pose du câble transatlantique, et notre ami désireux de vérifier la prédiction suivit de près les journaux, et un mois après, soit le temps nécessaire à l'arrivée du courrier russe à cette époque, il lui fut donc là la preuve, car il a pu lire la nouvelle de la mort du personnage russe qui a été mentionné. Notre ami fut donc absolument convaincu que le spiritisme n'était pas mystification et désira assister à une autre séance. Je ne vous le recommande pas. Et lorsque cette dernière a eu lieu, le médium, tenant compte de l'information reçue précédemment, demanda: Y a-t-il d'autres médiums présents? Si oui, combien? Et la réponse fut: Il y en a quatre. Le médium demanda à l'esprit d'indiquer les quatre médiums présents. Chacun prononça son propre nom et un coup frappé sur la table par quelqu'un d'invisible désigna alors les médiums. Notre ami, eh bien, dont je vous ai dit au début, chrétien, se trouva être un des élus et se sentit grandement honoré de ce choix. Ceci se passait à Wheeling, dans la Virginie occidentale. Peu après, cet ami est venu en Pennsylvanie rendre visite à une tante qui était veuve et dont la famille habitait l'endroit. Désireux de faire étalage du pouvoir de médium dont il avait été investi, il pria sa tante et la fille de cette dernière d'assister à une séance. Elles furent surprises et la fille demanda: Comment? Vous êtes un médium? Je suis également un médium frappeur. Mon frère Harry est un médium de table tournante et ma mère est un médium par suggestion hypnotique. Ha, quelle horreur! Notre ami n'avait jamais vu que les manifestations des médiums frappeurs et désirait donc là vivement se rendre compte des pouvoirs spéciaux de sa tante, et cette dernière lui montra quelques lignes qu'elle avait écrites absolument semblables à l'écriture autographe de Cheikh Libellé par son oncle défunt. Effet remarquable. Cet oncle avait une très belle écriture et sa tante, par contre, ne pouvait pas écrire du tout, voyez-vous, sauf, évidemment, sous l'influence spirite. Alors, désirant éprouver le pouvoir de sa tante comme médium parlant par suggestion, les trois personnes précitées prirent place autour d'une petite table et la tante demanda à un esprit de communiquer par son intermédiaire. Il fut répondu qu'il ne serait donné aucune communication parce qu'il n'y avait pas d'auditeur incrédule à convaincre. La séance continua néanmoins et la tante invoqua de nouveau l'esprit. En guise de réponse, ses mains furent soulevées avec beaucoup de force et abaissées brutalement sur la table. Ils furent tous très surpris. Les esprits étaient évidemment irrités d'un second appel après leur refus. Après avoir discuté le sujet pendant 10 minutes environ, notre ami persuada sa tante d'évoquer de nouveau les esprits pour voir ce qui se produirait. La tante s'exécuta. Cette fois-ci, ses mains furent soulevées et violemment abaissé sur la table, mais 3 fois de suite, et rapidement, en produisant carrément un choc tel que tous les os semblaient avoir été brisés. La tante s'élança de la table en délire, les yeux hagards, et criant « Oh, oh là là !» L'esprit, quel qu'il fût, était évidemment très irrité et tenait à faire savoir qu'on ne plaisantait pas avec lui. Après cette expérience, la tante de notre ami ne voulut plus jamais servir de médium dans aucune manifestation spirite. Elle fut assez prudente pour s'en abstenir. Notre ami était néanmoins désireux de constater les exploits d'un médium de table tournante, et lorsque son cousin Harry vint à la maison dans la soirée, notre ami insista auprès de lui pour obtenir une démonstration de ses talents de médium. Harry consentit, et voici ce qu'il fit entre autres. Il plaça une table au centre de la chambre et déclara « J'adjure l'esprit de notre vieux chien Dash d'entrer dans cette table. » S'adressant à la table, il dit « Viens Dash !» Et croyez-le ou pas, la table se balança sur 2 pieds et le suivit en trébuchant autour de la chambre. Nous devons ajouter que notre ami qui est témoin de ces choses n'exerce plus aujourd'hui ses pouvoirs de médium. Il est un des chrétiens distingués de Pittsburgh et son point de vue actuel sur le spiritisme est le même que celui que nous allons exposer. Les spirites prétendent que ces manifestations et communications avec des intelligences invisibles proviennent d'êtres humains qui vécurent jadis dans ce monde et qui, après une mort apparente, deviennent ou sont devenus en réalité plus vivants que jamais, beaucoup plus intelligents, plus dégagés d'entraves, évidemment, et de toute manière bien supérieurs à ce qu'ils étaient antérieurement. Le but des manifestations spirites est, prétend, de prouver que les morts ne sont pas morts, mais bien vivants, qu'une résurrection des morts n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a pas de mort. Les morts étant au contraire vivifiés après leur passage par l'étape désignée sous le nom de mort, nous ne nous attarderons naturellement pas à démontrer combien ceci est totalement en opposition avec les Saintes Écritures, et nous nous bornerons à citer aux auditeurs la parole de l'Éternel, lui rappelant que si les morts ne ressuscitent pas, ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Notez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 13, ainsi le verset 18, Job, chapitre 14, verset 21, Psaume 146, verset 4, et Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 et 6. Voici de quelle manière commence l'aveuglement dès que l'incrédule en matière de spiritisme est convaincu qu'une intelligence invisible se manifeste par le médium. Son intérêt est décuplé car le spiritisme fournit des preuves incomparables de communication avec l'invisible et beaucoup de gens paraissent non seulement désireux, mais anxieux de marcher par la vue plutôt que par la foi. Chacun a des amis qui sont morts et des milliers de personnes désirent vivement entrer en communication avec eux s'il est possible et ainsi obtenir un message ou un conseil que ces soi-disant morts vivants pourraient leur donner. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris de voir combien de personnes sont absorbées par ces questions et sont désireuses de recevoir des directives de ceux qu'elles jugent leurs plus fidèles amis et leurs plus sages conseillers. Donc, ces personnes se rendent vers les médiums pour communiquer avec les morts. Le médium donne une description des cheveux, des yeux, etc. Indique certaines particularités, par exemple un doigt ou un pied estropié ou difforme, grâce auquel un père, un fils, une sœur ou une femme reconnaissent leur cher défunt. Puis, un message est communiqué, en dépit de sa forme vague et incertaine, on le fait passer pour être très important. Les débutants ressentent une sorte de joie respectueuse. Ils sont humblement conscients de l'infériorité de leurs conditions et sont fiers néanmoins d'avoir été jugés dignes de recevoir une communication du monde des esprits, alors que tant d'autres n'ont pas cette faveur, mais ignorent les merveilles du spiritisme. Ces premiers sentiments éprouvés ont quelques analogies avec certaines catégories de sentiments religieux et, dès lors, les « convertis » entre guillemets sont prêts à ajouter foi et à obéir aux conseils et instructions de ceux qu'ils estiment plus éclairés, plus sains qu'eux-mêmes et qui prennent un si grand intérêt à leur bonheur présent et éternel qu'ils ont quitté leur joie et leur ministère céleste pour entrer en communication avec eux et pour les instruire. La majorité de ces personnes n'ont pas une véritable foi chrétienne et s'appuient sur la sainte parole de Dieu, eh bien, ils feraient mieux de le faire et elles désirent donc une vie future et ainsi ont une espérance se rapportant à leurs parents morts plutôt qu'une foi réelle sur ces deux questions-là. La conviction qu'elles ont d'avoir communiqué avec ceux qui sont au-delà de la tombe leur apporte en conséquence une notion plus concrète et plus captivante que toutes leurs idées antérieures ayant trait à la vie future. Donc, nombre de ces personnes, n'ayant jamais éprouvé de sentiments religieux, se tiennent le discours suivant. Maintenant, je sais ce que sont la foi et les sentiments religieux se rapportant à l'avenir, et elle se félicite d'avoir obtenu ainsi une grande bénédiction spirituelle. Mais ceci n'est que la première étape de ces expériences relativement édifiantes et ne sont que le début. Les spirites conviennent, ils conviennent franchement qu'il y a des mauvais esprits, ils le reconnaissent, des esprits menteurs qui les trompent maintes et maintes fois, ainsi que le démontrent les expériences subséquentes. Donc, les messages et les révélations, souvent stupides et dénuées de sens, produisent peu à peu chez celui ou celle qui s'adonne à ses recherches l'incrédulité à l'égard de la Bible et du Créateur. Et d'autre part, ces manifestations spirites enseignent et proclament que les seules sources de connaissances, outre celles dues à la nature, proviennent des esprits, entre guillemets, ce degré franchi, le terrain est préparé pour recevoir les doctrines plus substantielles sur les affinités des esprits, l'amour libre et beaucoup d'autres choses qui sont contraires, absolument contraires aux Saintes Écritures. En dépit des premières déceptions et des faits de nature à ébranler la confiance, on finit généralement par admettre l'explication d'après laquelle il existe des bons et des mauvais esprits, et c'est fait à qui la malheureuse victime s'engage totalement et aveuglément dans cette voie, pleinement persuadée qu'elle est en communication parfaite avec quelque puissance surnaturelle. Pour illustrer cette considération, citons simplement l'exemple d'un vieux monsieur de Pittsburgh, spirite convaincu et ardent défenseur du spiritisme. Nous connaissons quelque peu son histoire par l'intermédiaire d'un ami commun. Lors d'une communication faite par un médium, personnifiant sa femme, transformé par évolution, cette dernière lui dit « John, je suis parfaitement heureuse. Une seule chose m'attriste et elle vous concerne précisément. » Il lui répondit « Oh, ma chère Marie, que mes affaires ne troublent pas votre bonheur. Je suis relativement heureux pour mon âge et dans une situation assez confortable. » Elle lui répondit, « Oh, pas du tout, John. Je sais très bien que vous êtes seul, vraiment seul, que je vous manque beaucoup, que vous êtes grandement privé de nombreuses petites attentions et que votre intérieur est triste. » Monsieur N. se fiait donc entièrement aux appréciations de Marie et le message produisit son effet, son intérieur, ses affaires lui procurèrent de moins en moins de satisfaction. Il devint donc de plus en plus mécontent. Dans une séance subséquente, il demanda à sa chère Marie ce qu'il devait faire pour calmer ses inquiétudes et la rendre parfaitement heureuse. Elle lui répondit qu'il devait chercher une compagne convenable et se remarier. Le vieux monsieur, il avait tout de même 80 ans, objecta que s'il pouvait trouver la personne requise, il n'était pas certain qu'elle voudrait l'accepter. Dans maintes séances, le prétendu esprit de sa femme insista et ses pensées finirent par l'obséder. Il se sentit plus solitaire et il demanda finalement à Marie de lui désigner quelqu'un puisqu'elle était mieux, beaucoup mieux qualifiée que lui, que tout être terrestre, pour trancher cette question-là. Le médium féminin simula une profonde indignation de la réponse reçue et refusa au premier abord de la transmettre. Elle mit une certaine insistance à refuser cette communication, ce qui aviva le désir de M. N. de connaître cette réponse. Finalement, le médium expliqua que c'était elle-même que l'esprit de la défunte désignait pour devenir la femme de M. N. Elle affecta d'être profondément indignée que l'esprit ait pu la juger capable d'épouser un vieillard comme lui. Poursuivi par ses idées, M. N. finit par se convaincre qu'il devait se laisser guider par l'esprit de sa femme dans le chemin du bonheur et de la paix. Il adjura le médium, ce médium féminin, vous l'avez compris, de se soumettre aux ordres de leur meilleur ami du monde des esprits, comme il est du devoir des humains. Le médium féminin consentit finalement à épouser pour se conformer aux indications de l'esprit, à la condition que M. N. lui transmette tous ses biens et sa fortune. Tout s'accomplit donc dans les formes légales et M. N., sa femme médium et la fille de cette dernière, se proposèrent de transformer l'intérieur froid et triste de M. N. selon les désirs de sa femme esprit. Cela dura, à vrai dire, peu de temps, et le pauvre vieux monsieur fut heureux d'abandonner sa maison et tout le reste pour être délivré des deux femmes démons qu'il a appris par la suite à connaître sous ce jour-là comme étant des femmes dangereuses qui lui ont volé toute sa fortune et ses biens. Ces événements n'ébranlèrent pourtant pas la foi de M. N. dans le spiritisme. Nullement, oh non, il communiqua de nouveau avec sa première femme, sa femme esprit, par l'intermédiaire d'un autre médium cette fois-ci, et il apprit qu'elle avait été faussement interprétée par un esprit menteur et qu'elle n'avait jamais donné des conseils aussi pernicieux. Nous connaissions les faits lorsque nous le rencontrâmes peu après. Il s'efforça donc d'imposer à ce pasteur les doctrines spirites et nous lui avons répondu, « Monsieur N., nous admettons que le spiritisme repose sur une base étayée par des phénomènes d'ordre suprahumain, mais nous déclarons formellement que les puissances qui communiquent avec vous ne se présentent pas sous leurs véritables identités. Elles prétendent être des amis et des parents défunts. Or, les Saintes Écritures affirment qu'il n'y a ni œuvre, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, et que les morts ne savent rien, Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 10. Elle déclare que notre seule espérance d'une vie future repose sur la résurrection des morts. Vous savez, monsieur N, que les témoignages de ces puissances, quelles qu'elles soient, qui prétendent être les esprits de vos amis, ne sont dignes d'aucune confiance et vous ne pouvez accorder aucune foi à leurs déclarations les plus solennelles. Ils sont, selon les Saintes Écritures, des esprits menteurs. Et nous continuâmes à lui montrer l'identité de ces esprits, tout simplement par les Saintes Écritures, comme nous allons le faire voir dans ce CD. Il convient, très franchement, que certains esprits étaient indignes de confiance, vraiment mauvais. Par contre, il assura que d'autres étaient peut-être bons, parfaitement véridiques, et qu'il lui avait souvent donné de très bons conseils d'une grande utilité. Certains spirites, les novices spécialement, prétendent que l'influence du spiritisme élève les sentiments. Mais ceux qui sont passés par toutes les phases successives de ce soi-disant système religieux assurent que, bien au contraire, cette influence est totalement démoralisante. Un journal spirit notable, The Banner of Light, décrivant la méthode d'opération, répond comme suite à la question suivante. Question. Si un esprit dirige la main du médium qui écrit, la transmission se fait-elle toujours par le cerveau? Réponse. Parfois, la direction reçue est appelée directement mécanique, et dans ce cas, il n'existe plus de communication entre le cerveau et le bras, le fluide nerveux, dont une certaine partie reste dans le bras pour permettre l'action, est le facteur qui détermine la manifestation spirit. Par contre, s'il s'agit d'une manifestation transmise, qui est transmise par sensation nerveuse, alors le cerveau et le système nerveux tout entier entre en jeu. Un autre journal, le Spiritual Age, l'âge du spiritisme, explique comme suite la différence, par exemple, entre le magnétisme animal ou le mesmérisme, oui, ça s'appelle le mesmérisme, et l'influence spirit. Supposez que je vous hypnotise aujourd'hui et que je parle, écrive et agisse par votre personne à l'état inconscient. Ceci est du magnétisme. Supposez encore que je meurs pendant la nuit et que devenu un esprit, je viens le lendemain vous magnétiser, parler, écrire et agir par votre personne, ceci s'appelle du spiritisme. La personnalité bien connue, Horace Hastings, apprécie de la manière suivante la valeur du spiritisme pour le monde. D'après la doctrine spirit, il existe autour de nous des esprits désincarnés, 100 fois plus nombreux que tous les humains en chair et en os. Parmi ces esprits sont les poètes, auteurs, orateurs, musiciens et inventeurs des âges passés. Ils ont la connaissance de tout ce qu'ils savent et qu'ils savaient pendant leur existence humaine et ils ont encore appris davantage, 100 fois davantage depuis lors. Avec des pouvoirs aussi étendus et des expériences aussi amplifiées, ils devraient être à même de réaliser ce que les mortels n'ont jamais pu faire auparavant. Ils peuvent agir librement sur l'opinion publique, sur la presse, et ils disposent d'une infinité de médiums qui reçoivent leurs messages. Des milliers et des milliers de chercheurs les ont sollicités avidement pour en obtenir des informations. Ils ont disposé de tables tournantes, d'ardoises de plumes et de crayons, de banjos, de pianos, de cabinets de réunion, des cloches, des violons, des guitares et de tout ceci, quels résultats pouvons-nous exhiber? Leur mission dans ce monde a été d'instruire les hommes, de les soulager, de les rendre plus sages et meilleurs. Ils ont parlé, frappé, fait tourner des tables, ils ont agité des sonnettes, joué du violon et écrivaillé. Ils se sont matérialisés et dématérialisés, ils ont provoqué des crises cataleptiques et se sont manifestés. Ils nous ont donc parlé de nombre de choses que nous connaissons auparavant, de nombre de choses que nous ne connaissions absolument pas, et de bon nombre d'autres connaissances qu'il nous est indifférent de connaître ou ignorer. Or, si par contre nous examinons le spiritisme au point de vue des connaissances positives, des enseignements véritables, des sciences utiles à pratiquer, il nous apparaît aussi stérile que le Sahara est semblable à une autre vie, ou plutôt, je veux le répéter pour ne pas faire un lapsus, si par contre nous examinons tout ce spiritisme au point de vue des connaissances positives, au point de vue des enseignements véritables, au point de vue des sciences utiles et pratiques, eh bien, on peut dire que tout cela nous apparaît totalement stérile et semblable à une outre qui serait vide. Chers amis, dans notre prochaine étude, nous essayerons de comprendre qui sont vraiment les esprits qui prétendent personnifier les morts. Ce sera l'étude numéro 6. Pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons terminer. Mais avant de prier ensemble, je voudrais vous citer quelque chose qui me semble important, que on peut parfois recevoir dans notre cœur et esprit quand nous méditons la Sainte Parole de Dieu. Voici donc ses pensées. En quelque lieu que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, vous serez misérable si vous ne revenez pas vers Dieu. Pourquoi vous troublez de ce que rien n'arrive comme vous le désirez et comme vous le voulez? À qui est-ce que tout succède selon sa volonté? Ni à vous, ni à moi, ni à aucun homme sur la terre. Nul en ce monde, fut-il roi ou pape, n'est exempt d'angoisse ou de tribulation. Qui donc a le meilleur sort? Celui certes qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent que cet homme a une heureuse vie, qu'il est riche, grand, puissant et élevé. Mais considérez les biens du ciel et vous verrez que tous ces biens du temps ne sont rien, que toujours très incertains, ils sont plutôt un poids qui fatigue. Parce qu'on ne les possède jamais sans défiance et sans crainte. Plus un homme veut avancer dans les voies spirituelles, plus la vie présente lui devient amère, parce qu'il sent mieux et voit plus clairement l'infirmité de la nature humaine et sa corruption. Manger, boire, veiller, dormir, se reposer, travailler, être assujetti à toutes les nécessités de la nature, c'est vraiment une grande misère et une grande affliction pour l'homme pieux qui voudrait être dégagé de ses liens terrestres et délivré de tout péché. Car l'homme intérieur est en ce monde étrangement appesanti par les nécessités du corps. Il sait pourquoi le prophète demandait avec l'ardente prière d'en être affranchi, disant « Ô Seigneur, délivre-moi de mes nécessités. » Malheur donc à ceux qui ne connaissent point leur misère, et malheur encore plus à ceux qui aiment cette misère et cette vie périssable. Ô cœur insensé et infidèle, si profondément enfoncé dans les choses de la terre, les malheureux, ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil, combien n'était rien ce qu'ils ont aimé. Mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus-Christ, ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps. Toute leur espérance, tout leur désir aspirait au bien éternel. Tout leur cœur s'élevait vers les biens invisibles et impérissables de peur que l'amour des choses visibles ne les abaissât vers la terre. Ne perdez pas, mon frère, ma sœur, l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle, vous en avez encore le temps. Pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l'accomplissement de votre résolution? Levez-vous et commencez à l'instant et dites « Voici le temps d'agir, voici le temps de combattre, voici le temps de me corriger. » Quand la vie nous est pesante et amère, c'est alors le temps de méditer. Il faut passer par le fer et par l'eau avant d'entrer dans le lieu de rafraîchissement. Si vous ne vous faites violence, vous ne vaincrez pas le vice. Or, tant que nous portons ce corps fragile, nous ne pouvons être sans péché, ni sans ennui et sans douleur. Il faut donc persévérer dans la patience et attendre la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit absorbé par la vie. Oh, quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal. Vous confessez aujourd'hui vos péchés et vous y retomberez le lendemain. Mais pourquoi? Parce que vous manquez de volonté et de discipline. Vous vous proposez d'être sur vos gardes et une heure après, vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé. Nous avons donc grand sujet de nous humilier et de nous jamais élever en nous-mêmes, étant si fragiles et si inconstants. Nous pouvons perdre en ce moment, par notre négligence, ce que à peine avons-nous acquis par la grâce, avec un long travail. Que sera-ce de nous à la fin du jour, si nous sommes si lâches dès le matin. Malheur à nous, si nous voulons goûter le repos comme si déjà nous étions en paix et en assurance, tandis que on ne découvre pas dans notre vie une seule trace de véritable sainteté. Chers amis, nous allons maintenant, sur ces pensées profondes, prier ensemble. Seigneur, tu as été recherché par ceux qui ne s'informaient pas de toi, et tu as été trouvé par ceux qui ne te cherchaient point. Tu as dit à la nation qui ne s'appelait point de ton nom, « Me voici ». Mais aussi tu as entendu et tu as étendu tes mains pendant tout le jour vers le peuple rebelle, vers ceux qui marchent dans le mauvais chemin après leurs pensées. Seigneur, tu as appelé et nous n'avons point répondu. Tu as parlé et nous n'avons point écouté. Mais nous avons fait ce qui te déplaît et nous avons choisi les choses auxquelles tu ne prends point de plaisir. C'est pourquoi tu nous déclares que tes serviteurs mangeront et que nous aurons faim, qu'ils boiront et que nous aurons soif, qu'ils seront heureux, qu'ils se réjouiront avec des chants de triomphe et que nous crierons à cause de l'amertume de notre esprit. Éternel, à qui regarderas-tu? À celui qui est humble, qui a l'esprit brisé et qui tremble à ta sainte parole. Éternel, tu te réjouiras sur ton peuple et on n'y entendra plus aucune voix de pleurs. Celui qui souhaitera d'être béni sur la terre se bénira par le Dieu de vérité, car les afflictions précédentes seront oubliées. Tu as promis de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tu viens pour rassembler toutes les nations et elles verront ta gloire. Avant que tes élus crient, tu les exauceras et lorsqu'ils parleront encore, tu les auras déjà entendus. Que l'Éternel montre sa gloire. Écoutons la sainte parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et chers amis, nous continuons donc cette série et demain, Dieu voulant, je vous donnerai la suite. À bientôt. Au revoir, mes très chers amis. Que le Seigneur vous bénisse.